Claude, on parle de vieilles plantes ce matin.
Et de la graine d'un fruit cueilli en 1859 par un explorateur dans le bois de Chamayama au Venezuela. Graine qu'il avait trempée dans du sel de cyanure pour la préserver des insectes. Et il avait rajouté cette étiquette. Le fruit est comestible mais de qualité inférieure. Puis ce ravisant avait aussi écrit « empoisonné ». On parle ce matin dans Le Point des richesses infinies d'un herbier qui témoigne de nous. L'herbier du Musée National d'Histoire Naturelle de Paris. 14 étagères de 75 mètres de longueur où dorment 8 millions de spécimens depuis la couronne de fleurs du pharaon Ramsès II. Et sur ces trésors veille un jeune botaniste, Marc Janson, 37 ans, directeur scientifique du lieu, qui s'ouvre au Point car il garde la mémoire de la planète qui se dérobe. Nous sommes face à la 6e extinction du vivant et nous n'avons à ce jour décrit que 15% du monde. Et ce n'est pas faire injure aux actualités brûlantes que préférer ce matin cette nouvelle. La violette de Cry a disparu, petite fleur qui n'aimait que les affleurements calcaires de Lyon et dont un unique spécimen, préservé des ravages, sommeille à l'ombre d'un classeur de toile au Muséum à Paris. Dans la lumière qui inonde la baie de Manille, dans le grouillement d'un marché aux poissons, dans des baraques en bois qui semblent flotter sur l'eau polluée, l'hebdomadaire La Vie me raconte différemment la même histoire. Comment retenir notre planète? Et c'est un reportage sur ces pêcheurs qui se battent contre la bétonisation en marche que le pouvoir veut accélérer et qui s'accrochent et protègent la mangrove. À Poigny, me dit Lyon Républicaine, un ancien gendarme, Patrice Meunier, se bat depuis 10 ans pour sauver les crapauds qui se faisaient écraser en traversant la D319 pour aller pondre. Il en a fallu remuer de la terre pour y déplacer des milliers d'amphibiens, désormais sauvés. Tous les combats n'ont pas l'âpreté de ceux que mène un peuple en Algérie, qui sont à la une de la Dépêche, de Midi Libre, des DNA, du Figaro et de l'Humanité. Mais chacun dans la presse, même pour des batraciens, peut mener le sien.
Et on parle d'une combattante chinoise.
Qui elle est à la une du New York Times. Elle s'appelle Sheng Xu et vit au Canada où elle est partie après les révoltes démocratiques écrasées en 1989. Elle écrit des livres, elle est une figure des démocrates chinois exilés, mais elle est aussi persécutée sur Internet par le régime de Pékin qui détruit sa réputation. Si vous effectuez sur Google une recherche en chinois sur son nom, vous verrez une voleuse, une traîtresse, une dépravée dont circulent des photos dénudées. Et tout ceci est fabriqué dans le cadre d'une stratégie des services chinois efficace puisque les démocrates en exil se divisent, puisque Sheng Xu, sous la pression de Pékin, voit sa santé décliner. Zineb El Razoui, comme en combattante également, semble plus solide, qui nous fixe à la une du Point. Très riche Le Point ce matin. Cette militante féministe venue de l'islam et du Maroc, dont les amis sont morts à Charlie Hebdo, sous protection policière, continue de combattre sans cesse un islamisme qu'elle ne sépare pas de la religion. Elle provoque ainsi des colères. Mais elle raconte aussi dans le journal l'amour d'une famille aussi musulmane qu'elle est athée, tante voilée comprise, et cette grand-mère qui fait chaque année le pèlerinage de la Mecque et prie pour elle à la Kaaba. Et pendant le ramadan, la grand-mère prépare le thé et un plateau de victuailles pour Zineb, et dans cette nourriture se réfugie un monde possible. L'Obs raconte à nouveau les Juifs de France devant la haine, mais c'est un sourire que l'on retient d'un rabbin ultra-orthodoxe qui éduque des enfants dans un quartier populaire de Paris et déconseille à ses ouailles de quitter la France. On n'entend pas de peur chez cet homme, et La Vie corrige les absolus d'une couverture de magazine. C'est donc par La Vie et par les petites gens que l'on capte des vérités ce matin. On lit dans Le Point encore, vraiment très riche, cette histoire d'un train qui parcourt la Sibérie, peuplée de médecins qui viennent soigner au fin fond de la trop grande Russie qui manque de docteurs, une vieille dame qui se masse avec son urine mais redoute un cancer de poumon, et plus que toutes les thèses, la misère russe dans ce train s'entend et se lit. En France, un homme ordinaire a écrit un livre. Il s'appelle Vincent Crase. Il fut le partenaire d'Alexandre Benalla. Il parle aux Parisiens et semble, dans ce journal, un gars un peu simplé, fasciné par le bel Alexandre et par le président Macron, à qui il voudrait dire « je suis désolé ». Oui, mais dans Paris-Normandie, chez lui, car il est de l'heure, Crase n'est plus risible, mais un homme solide dont la vie a été chamboulée par sa faute et qui le dit simplement et qui doit retrouver du travail et pourrait devenir maraîcher. On peut préférer Paris-Normandie.
Allez Claude, pour finir, un romancier en mal de roman.
Dans America, revue trimestrielle qui ressort aujourd'hui, qui nous offre une interview de Bret Easton Ellis, romancier terrible des folies américaines, qui publie à nouveau après 10 ans de silence, ou presque. Il a renoncé au roman, mais s'exprime dans un podcast. Et soudain, vieux monsieur du 20e siècle qui vit avec un homme jeune, il explique comment le monde a changé et l'on écoute désormais, on ne prend plus le temps de lire. Essayons néanmoins.
Merci Claude pour cette revue de presse.